Salut à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'auto-édition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'auto-éditer.
Alors aujourd'hui, je papote avec Lucille Chaponnet, dont j'admire beaucoup le travail, ça je crois que je te l'ai déjà dit. Je voulais absolument t'interroger, t'es l'auteur d'une quinzaine de romans, plutôt tournés, fantasy, SF, mais avec une bonne touche d'humour et de rocambolesque. Mais t'es aussi entrepreneuse, puisque tu proposes des masterclass et des services éditoriaux avec la plateforme notamment BookMoi. Enfin, je sais pas trop si c'est une plateforme ou un collectif, mais on va en reparler ensemble. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en lien avec une masterclass que tu proposes sur la thématique du financement participatif. Donc faut-il, oui ou non, faire des campagnes Ulule et des préventes pour financer la fabrication de son livre, son impression, comment est-ce que ça s'organise? On va parler de tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de venir sur le podcast.
Bah, merci beaucoup à toi de m'y avoir invitée, ça me fait très très plaisir.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous expliquer comment t'es arrivée à l'écriture, comment t'es arrivée à l'auto-édition surtout et à la publication de ces romans?
Oui, alors bonjour, moi c'est Lucille Chaponnet, j'ai 28 ans et je suis arrivée dans l'autopublication de manière un petit peu progressive, on va dire. Il faut savoir que moi j'écris depuis plus de la moitié de ma vie, depuis plus de 15 ans, et j'ai toujours voulu écrire en fait, donc c'est vraiment une grosse grosse passion qui m'a suivi tout le long de ma scolarité et puis même plus tard. Je me suis plutôt penchée au niveau des études sur la biologie, ce qui fait que je suis ressortie à 25 ans avec un diplôme d'ingénieur agroalimentaire, mais plusieurs expériences professionnelles m'ont un peu dégoûtée de ce métier-là, et en fait à l'époque j'étais chroniqueuse. Je suis tombée sur pas mal de livres auto-édités, le concept m'a plu. Et du coup, j'ai juste décidé de me lancer. Et après, tout est arrivé très vite. Un an plus tard, je me lançais à temps plein sur cette activité. Et ça fait maintenant 2 ans, du coup, que je suis à temps plein.
Génial. C'est pas banal comme parcours quand même. Du coup, quand tu étais chroniqueuse, t'avais affaire à des auteurs auto-édités, mais est-ce que tu connaissais un petit peu ce monde-là et tout l'aspect technique, j'ai envie de dire, que ça implique?
Rien du tout. En fait, j'étais très naïve à l'époque sur le sujet. Je suivais beaucoup Jupiter Phaeton. Et en fait, je l'ai vu publier un roman en un mois. Et je me suis dit, oh, ça a l'air facile, allons-y. Et en fait, ça ne l'a pas du tout été. Du coup, je me suis auto-formée sur plein, plein de choses. Heureusement, il y avait déjà quelques... Pas des formations, mais des...
Des ressources.
Voilà, des ressources absolument disponibles. Et je me suis basée là-dessus. Je me suis aussi beaucoup basée sur le faire moi-même. Et ça m'a demandé énormément de temps. J'ai dû passer des centaines d'heures à essayer de maqueter, à essayer de comprendre l'impression Amazon. Puis même plus tard, l'impression Books Factory. Enfin bon, bref, à tâtonner. Et au final, j'ai réussi, pas au bout d'un mois, évidemment, plutôt au bout de 4, à publier mon premier roman qui est La Cité des Sempions.
Génial. Donc aujourd'hui, tu en as presque écrit 15, je crois, je ne suis pas trop sûre de mes comptes. Est-ce que tu arrives à vivre de ton écriture? Est-ce que c'est ton objectif?
Alors, c'est mon objectif puisque je suis à temps plein dessus depuis 2 ans. C'est une ressource financière qui n'est pas très stable. Du coup, autant il y a eu des mois où je m'en sortais à peu près, autant il y a eu des mois où c'était la cata. Je pense que là, ça y est, j'ai créé mon entreprise. Je vois que l'activité commence à bien évoluer. Alors, c'est long, hein, parce que ça fait déjà 2 ans. Mais petit à petit, en fait, on s'en rapproche. Et j'ai presque envie de dire que je touche bientôt mon rêve du doigt. Donc on s'accroche et j'espère y parvenir très vite.
Et la création de tous ces services que tu proposes, que ce soit la bêta lecture, le coaching, les masterclass, etc. Est-ce que c'est venu en complément de l'écriture un peu après coup, ou est-ce que c'est quelque chose dont tu avais déjà envie au départ?
Alors, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup de choses. C'est bien pour ça que j'ai fait de la bio et que ça m'a pas du tout dérangée, parce que j'adore apprendre. Et en fait, à la base, en plus d'être autrice, j'aurais aimé être prof. Alors, j'ai un peu mis ce rêve-là de côté parce que j'ai découvert un peu l'envers du décor. Mais c'est toujours resté un petit peu dans le coin de ma tête. Et en fait, le coaching, la bêta et les masterclass, ça vient un petit peu combler ce rêve-là. Alors évidemment, c'est venu après l'écriture, quand je me suis rendu compte qu'il me fallait une alternative pour stabiliser mes revenus financiers. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je fais à contre-cœur parce que c'est quelque chose qui était déjà en moi avant. Et ça me fait très plaisir de travailler là-dessus aussi.
Oui, et puis j'imagine que quand on est dans le milieu, enfin moi je ressens un petit peu la même chose que toi, on commence à connaître du monde, il y a beaucoup de gens qui ont un vrai besoin d'accompagnement et de s'identifier aussi à ton travail. Donc c'est un plaisir, j'imagine, de pouvoir partager tout ce que tu as appris par toi-même pendant des heures et des heures de travail.
Ah oui, en fait, je pars du postulat que j'aurais aimé avoir une personne avec plus d'expérience avec moi pour m'aider les premières fois que j'ai publié des livres, mais jusqu'à longtemps, hein, je pense que je me suis vraiment à peu près stabilisée dans mon expérience au bout d'un an et demi, et encore aujourd'hui, j'apprends plein de trucs, et c'est vrai que, en fait, c'est un gain de temps énorme de savoir comment faire, et c'est ça que j'essaye aussi d'apporter aux gens, du gain de temps.
Oui, du gain de temps, d'énergie, de la charge mentale en moins. Enfin, c'est vraiment un travail de tous les jours, donc avoir quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut te guider un peu, c'est toujours bien, quoi.
Ouais, voilà, exactement.
Justement, j'avais envie qu'on discute un petit peu aussi de ce que tu proposes avec Bookmoi, puisque le but de t'avoir sur ce podcast, c'est aussi de parler un petit peu de tes projets annexes. On parlera de l'écriture et de tes livres juste après. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Comment vous avez créé ça?
En fait, Bookmoi, c'est, je pense, un collectif. On est 8 en tout pour le moment. Et encore une fois, on est parti du postulat que, en tant qu'auteur auto-édité, quand on veut trouver des services, il faut qu'on demande à plusieurs personnes différentes. Et c'est de l'énergie, surtout qu'on ne sait pas forcément à qui se fier et qu'on a toutes eu des expériences pas ouf à ce niveau-là, à tenter de trouver les bonnes personnes qui nous correspondent, autant pour la correction que pour la bêta, que pour les maquettes, etc., etc. On a toutes beaucoup tâtonné. Et comme en fait, on faisait toutes quelque chose de différent et qu'on s'est toutes testées les unes les autres, donc on a confiance dans le travail des autres, on s'est dit non mais attends, à nous toutes en fait, on arrive à faire tout le parcours édito d'un livre, tout simplement. Est-ce que ce serait pas pertinent de s'allier et puis que la personne qui a besoin de ce parcours-là, elle puisse nous demander en one shot tous ces services-là? Donc on fait de la bêta, on fait du coaching, on fait du maquettage et on fait des covers. Vraiment, normalement, on touche à tout ça. Alors, c'est pas nous qui allons démarcher des imprimeurs, etc. Mais on peut coacher là-dessus aussi parce qu'on a de l'expérience. Donc vraiment, la personne qui a juste besoin d'une bêta, elle peut venir nous voir aussi. Il n'y a pas de souci. On a des services à la carte. Mais celle qui est vraiment un peu perdue, qui sait pas où il faut aller, elle peut vraiment tout nous commander d'un coup, sans avoir peur, entre guillemets, parce que vraiment, on a pris que des personnes qu'on estime compétentes, qui ont les capacités à sortir un livre de qualité éditoriale, quoi, tout simplement.
C'est bien de pouvoir compter sur une équipe au complet, qui se connaît bien en plus, c'est rassurant.
Voilà, exactement. C'est vrai qu'on se connaît bien, donc des fois on s'échange des informations, fais attention à tel endroit, quand, par exemple entre bêta et correcteur, on fait la passation aussi. Et pareil, entre correcteur et bêta lecteur et maquettiste, s'il y a besoin de précision sur le livre, il n'y a aucun souci, quoi. Le travail, on le fait comme ça.
C'est super intéressant. Je mettrai les coordonnées en barre d'infos pour que les personnes que ça intéresse puissent évidemment y jeter un œil. Je ferme le volet entrepreneuriat, j'ouvre celui de l'écriture et de la publication. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton dernier roman qui vient de sortir ?
Oui, Les Princes Vampires. Alors, j'ai pas l'habitude de le pitcher vu qu'il est tout nouveau. Mais en fait, c'est une trilogie qui va se baser sur trois frères qui sont les héritiers du trône des vampires. Donc, on a le grand héritier qui s'appelle Ryan, c'est sur lui que porte le tome 1. Il y a son petit frère Matthew et encore son plus petit frère Callum derrière. Donc, chacun possède un tome avec un fil rouge qui sont les complots de cour. Et chaque tome contient une romance. Donc, la première romance, c'est sur Ryan. La seconde, ça va être sur Matthew et la troisième sur Callum. Parce que on a envie d'un peu d'amour dans cette vie de brute, surtout que ils ne vont pas vivre des trucs très très joyeux, nos princes vampires. Et voilà, et du coup, je voulais me lancer dans du gros complot, avec des vampires, pourquoi pas. J'espère que ça plaira aux gens.
Oui, d'ailleurs, tu étais sur un salon il n'y a pas longtemps, les Imaginales, il paraît que tu as fait un carton.
Oui, je suis rentrée avec des cartons vides, justement, donc ça fait super plaisir. Et puis, j'ai rencontré des lecteurs absolument formidables et des auteurs aussi formidables, donc c'était vraiment un excellent week-end.
Du coup, tu as pu présenter un petit peu ce roman-là, tu l'avais avec toi, j'imagine, c'était ses premiers pas vers son public ?
Voilà, je l'avais avec moi, mais en fait, j'ai pas eu besoin de le pitcher parce que les gens, ils lisaient le résumé. Alors, il y a eu des gens qui sont venus me le prendre parce qu'ils me connaissaient, ils savaient que je serais là avec le livre. Donc là, pas besoin de le pitcher parce que j'avais déjà communiqué énormément dessus sur les réseaux. Et il y a ceux qui ont juste lu le résumé et qui m'ont dit, bah, je le prends. Et du coup, comme ça va, j'ai pas eu besoin de trop en parler. Mais va falloir que je m'entraîne pour les prochains salons.
Bon, ça veut dire que quand les gens le voient, ça fonctionne, c'est de bon augure pour la suite, on va dire.
Voilà, exactement.
Alors, la raison pour laquelle on discute aujourd'hui, c'est aussi que tu as une expérience très très intéressante, notamment sur le sujet qui nous intéresse, les préventes, les campagnes de financement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous définir ce que tu entends par là, pour les gens qui nous écoutent et qui se posent des questions sur le sujet, qui ne savent pas trop quelle est la différence entre prévente, précommande, financement participatif, bref, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça s'organise?
Oui, je peux en parler. Alors, les préventes ou précommandes, en fait, il y a une différence entre les deux, mais elle est minime pour nous parce que une précommande, c'est vendre en fait un produit qui n'est pas encore fabriqué, et la prévente, c'est de vendre un produit qui n'est pas encore disponible sur le marché. Donc, la différence est vraiment minime pour nous. Généralement, c'est la même chose. Et le crowdfunding, en fait, c'est pareil que le financement participatif, c'est-à-dire qu'on va demander à des gens de financer notre projet et en échange, on va souvent leur envoyer des choses. Donc, on cumule généralement le financement participatif avec des précommandes. Donc, on vend notre livre avant qu'il soit fabriqué à des gens pour pouvoir utiliser cette trésorerie-là pour imprimer un stock ou pour imprimer ses goodies, etc., etc. Donc moi, je le prends vraiment comme ça. Mes financements participatifs, je les utilise principalement pour financer mes futurs stocks, parce que en général, j'ai la trésorerie pour les imprimer sans besoin de crowdfunding. Sauf que c'est un risque financier énorme. Et du coup, le fait de faire une prévente ou une précommande, ça permet de savoir déjà si le livre, quand on l'a pitché, il a intéressé les gens, voir combien de gens sont intéressés et éviter d'utiliser toute sa trésorerie en impression. On va utiliser du coup l'argent récolté pour ça. Et du coup, on est plus tranquillisé, on va dire, d'un point de vue financier. Et on peut aussi se permettre des choses un peu plus évoluées. En gros, par exemple, grâce à mes campagnes de crowdfunding, si je gagne beaucoup d'argent, je peux ajouter une option à mon livre, par exemple un vernis sélectif, une dorure, des illustrations intérieures, des goodies un petit peu sympas, en plus du marque-page, etc., etc. Donc c'est aussi intéressant, rien que pour l'objet livre, de passer d'un objet livre simple à un objet livre un peu plus évolué et un peu plus sympathique.
Mais alors techniquement, comment ça s'organise? Est-ce qu'il faut faire ça sur son site internet, sur des plateformes qui existent? Est-ce que tu les utilises? Comment ça se passe pour toi?
Alors, il existe des plateformes. La plus connue, ça reste Ulule, mais on a des plateformes type Kickstarter qui existent également, mais qui sont plus du côté anglophone. Et effectivement, on peut créer son site internet avec un système de prévente, ça, il n'y a pas de souci. Mais on va choisir sa plateforme selon sa stratégie de vente. En gros, moi, si moi aujourd'hui je peux me permettre des préventes sur mon site internet, et je le répète bien dans la formation, c'est parce que j'ai une communauté qui est habituée à m'acheter mes livres en direct, que j'ai habituée à mon site internet, et du coup qui ne va pas être frileuse à aller sur mon site internet. Et j'ai aussi également une assez grosse communauté, donc généralement elle me suit dans mes projets. Par contre, Ulule, ce qui est bien, c'est que presque tout le monde aujourd'hui connaît Ulule, et du coup, quand il y a un projet dessus, le client, même s'il ne nous connaît pas, il va nous faire confiance. Et du coup, il va acheter. Le seul, entre guillemets, problème d'Ulule, qui n'en est pas un, c'est normal en fait, ils se prennent une rémunération à hauteur de 8% de ce que tu gagnes au total sur ta campagne. Donc, il faut prendre en compte ce pan-là dans le calcul de ton budget de campagne.
Justement, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe pour établir ce budget, sur quels critères on s'appuie, selon la stratégie de chacun, comment on fait pour savoir combien il nous faut? J'ai vu aussi qu'il y a plusieurs systèmes, soit on vise un montant en particulier, soit un nombre de ventes, voilà, quelle stratégie on applique selon toi?
C'est une question très vaste et très complexe parce que établir un budget, C'est compliqué. Alors moi, j'adore parce que j'adore les chiffres, ça ne me dérange pas du tout. Mais en fait, ton budget dans une campagne de prévente est amené à évoluer. Tout simplement parce que c'est maintenant acquis dans une campagne pareille que tu vas débloquer ce qu'on appelle des paliers. C'est-à-dire que, bon, tu as le palier 100%, c'est-à-dire ça y est, ton projet est rémunéré. Donc, les livres vont être bien envoyés à ceux qui ont participé, mais tu vas avoir des paliers type, bah, par exemple, si on atteint les 200%, je rajoute une carte postale à tous les paquets. Et ces cartes postales, elles vont forcément te coûter quelque chose, donc il va falloir les ajouter à ton budget, mais seulement à ton budget de 200% et plus, etc., etc. Moi, je considère que quand tu calcules ton budget, il faut que tu prennes en compte toutes tes dépenses. Donc, dépenses d'impression, dépenses de TVA, si tu es éligible à la TVA, dépenses d'envoi, donc tu as quand même les cartons, le scotch, l'encre pour ton imprimante pour imprimer les tickets quand même d'envoi, la poste, etc. à prendre en compte. Tu te dis, pour que mon projet, pour que ça m'aide dans ma trésorerie, en fait, de faire ces préventes, il faudrait que j'en vende 25 ou 50, ce qui me fait tant en montant. Là, c'est à toi de choisir si tu veux faire des préventes avec le nombre de ventes ou plutôt avec l'argent. Moi, personnellement, je préfère quand on met l'argent, tout simplement parce que c'est plus impressionnant de voir un plus 25 que de voir un plus 1. Voilà. Plus 25 euros, ça, tout de suite, ça augmente ta cagnotte et ça fait un petit effet waouh. Moi, c'est ce que je conseille. Mais après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de meilleur ou non technique. Les deux existent. Et à partir de ce moment-là, tu établis ton budget au minimum. Et moi, je considère qu'il faut toujours se prendre entre 15 et 20% de marge. C'est pas forcément pour se rémunérer. C'est pour pallier à si jamais il y a un problème. Et il y a toujours des problèmes de budget dans une campagne Ulule. Toujours. Donc, il ne faut pas que tu calcules, par exemple, si tu vends ton pack à 25 euros et qu'à l'intérieur, tu as 25 euros bah, d'impression, de carton, de scotch et tout ça et tout ça. Le calcul n'est pas bon parce qu'il suffit que tu aies un problème et ça y est, tu es en perte. Le but, ce n'est pas que tu sois en perte. Le but, c'est que tu sois à l'équilibre et au mieux que tu te rémunères. Donc ça, c'est le conseil que je donne. Après, un budget, effectivement, il faut essayer de penser à tout. La formation est là pour ça. Il faut savoir que nous, on a un Discord qui va avec la masterclass. Comme ça, si la personne a des questions ou se trouve bloquée par ce sujet-là, elle peut tout à fait les poser et nous, on y répond.
Tu disais que ça fonctionne avec des paliers. Si tu n'atteins pas le montant de ton premier palier, comment ça se passe? Est-ce que tu dois rembourser tes contributeurs ou bien ça n'a pas d'incidence particulière? Tu peux garder ce qui a été donné par les personnes qui ont participé à la campagne?
Alors, sur Ulule, si tu n'atteins pas les 100%, effectivement, ils remboursent tout le monde. Donc, toi, tu gagnes zéro. Tu gagnes pas un copec. Par contre, si tu choisis, toi, de le faire sur ton site internet, en fait, c'est à toi de choisir. Tu peux te dire, peu importe le nombre de préventes que je fais, je les garde et ça m'aidera de toute façon dans ma trésorerie, donc tant mieux. Ou tu peux te dire, bah, je fais comme Ulule. Si jamais je n'atteins pas les 10, 20, 30, 40, 50 préventes, j'en sais rien, je rembourse tout le monde. Alors, il faut savoir que sur un site internet, c'est quand même un peu plus complexe que sur Ulule, parce que Ulule se charge de tout. Sur ton site internet, c'est toi qui, manuellement, va devoir faire tous les remboursements. Personnellement, quand je fais une prévente sur mon site internet, je n'ai pas de palier zéro. C'est-à-dire que n'importe quelle vente va m'aider. Je ne rembourserai personne si on n'atteint pas le premier palier. Par contre, je garde le système de palier. Par exemple, si jamais on atteint les 50 préventes, j'offre un goodies supplémentaire. Et comme ça, on a toujours, en fait, le but d'avoir ces paliers-là, c'est de continuer dans la communication à dire aux lecteurs qui hésitent de prendre le pack, parce que plus on est à prendre de pack, plus il y a de récompenses, et du coup, c'est tout de suite vachement plus intéressant et vachement plus simple aussi de faire sa communication sur un cadeau qui s'ajoute.
Et du coup, est-ce que c'est pertinent? Selon toi, si on prend le cas des campagnes Ulule par exemple, de faire un premier palier assez bas, on va dire, pour être sûr de l'atteindre et de ne pas avoir à rembourser les personnes, ou c'est complètement contre-productif?
Encore une fois, ça dépend de ta stratégie. Est-ce que c'est quoi ton minimum d'achat pour que ton projet y réussisse? tu vas pas mettre 5 préventes à atteindre si jamais il t'en faut 10 pour pouvoir te permettre un stock ou pour pouvoir atteindre ton vrai objectif qui est derrière. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il faut pas non plus voir trop grand. C'est que, par exemple, je vais donner un exemple que je connais bien puisque c'est ma campagne Ulule. La campagne du Ulule des Plaines du Vent, j'avais mis un premier palier à 1000 euros. À 1000 euros, en fait, je considérais que déjà, c'était relativement simple à atteindre parce que j'avais atteint les 4000 euros sur la Cité des Sangs Purs dans une campagne précédente. Donc, j'avais l'expérience et je savais qu'on allait les atteindre. Donc, je savais aussi qu'on allait potentiellement les dépasser et du coup, je pouvais proposer plein de goodies et avoir cet effet d'engouement. Sauf que derrière, les 1000 euros ne me remboursaient que mon stock. Ils ne me remboursaient pas la couverture, ils ne me remboursaient pas la correction, etc. Si je voulais rembourser tout ça d'un coup, j'aurais dû mettre un objectif à peut-être 6000 euros. Et du coup, ça aurait été contre-productif parce que j'aurais demandé à ma communauté de s'investir sans avoir de cadeau derrière, sans avoir de récompense. Et en plus, c'était risqué parce que ma précédente campagne Ulule n'avait fait, entre guillemets, que 4000 euros. Donc, je ne pouvais pas non plus prendre ce risque-là de mettre plus haut parce que si je ne les atteignais pas, c'était fini. Donc, il faut vraiment trouver ce petit équilibre et aussi prendre des risques. De toute façon, une campagne de précommande, quoi qu'il en soit, c'est des risques. Il faut savoir jusqu'à quel risque on accepte d'être exposé. Voilà.
Je me mets à la place d'un auteur qui pense à faire ça, une campagne comme ça. À quel moment c'est judicieux de la mettre en place? Combien de temps elle doit durer? Est-ce qu'il faut en parler vraiment en amont de la sortie ou est-ce que tu as un planning un peu plus précis pour ça?
Alors, c'est mieux d'avoir un calendrier un peu précis, mais il faut, quoi qu'il en soit, en parler avant. En fait, c'est la campagne Ulule ou même la campagne de financement participatif en général, c'est un événement. C'est un vrai, vrai événement. Donc, il faut en parler avant, il faut en parler pendant, il faut en parler après. Généralement, on conseille de commencer à en parler avant, 1 à 2 mois avant qu'elle arrive. Ensuite, il y a entre 1 mois et 1 mois et demi de campagne. Et ensuite, il faut en parler après pour tenir au courant les gens de l'avancée des envois, etc., etc. Mais la question à se poser avant ça, c'est déjà, est-ce qu'on a l'énergie pour porter une campagne Ulule? C'est le plus gros point à réfléchir d'une campagne, c'est que ça va te demander de l'énergie, puisque comme je l'ai dit, il faut en parler avant, pendant et après. Parce que contrairement à, j'en sais rien, une vente sur Amazon, tu postes ton livre, tu mets en place éventuellement des pubs, tu en parles sur ton compte Instagram, TikTok ou Facebook, et ça s'arrête là, sauf que la campagne Ulule, tu vas devoir envoyer les bouquins. Tu vas devoir en parler, tu vas avoir des gens qui vont te demander toutes les semaines où est-ce que ça en est. Enfin, il y a une grosse préparation et puis il y a un gros après aussi. Donc, c'est très énergivore et ça, je pense que les gens, de toute façon, s'en rendent assez peu compte, même si je le dis. En fait, ils s'en rendent compte sur le coup. Quand ils sont face au problème, ils se disent « Ah oui, elle ne déconne pas quand elle disait que ça prend énormément de temps parce qu'il faut faire des visuels. » Parce qu'il faut en parler, parce que en fait, pendant le temps que ça dure, tu vis crowdfunding, quoi. C'est devenu tout ton temps. Alors si tu travailles à côté, tout ton temps perso, et si c'est ton activité principale d'écrire et de te publier, tout ton temps de travail. Donc ça, il faut en être conscient. Il faut aussi être conscient qu'une campagne de prévente, il faut avoir déjà une petite communauté derrière soi. Donc, il faut bâtir sa petite communauté. On ne dit pas qu'il en faut 3000 hein, des gens qui te suivent, mais il faut avoir cette petite base de fans qui vont être là pour en fait enclencher la campagne Ulule, enclencher les premières ventes et du coup avoir cet effet de cercle vertueux, quoi. Et à côté de ça, pour les paramètres très très techniques de la chose, moi, j'estime qu'il n'y a pas de mauvais moment pour faire une campagne Ulule. Alors, il y en a qui diront, oui, il ne faut pas le faire pendant l'été. J'en ai fait 2 pendant l'été, ça s'est très bien passé. Oui, il ne faut pas le faire en janvier, les gens n'ont pas d'argent. Sauf que janvier, les gens n'ont peut-être pas d'argent. Mais comme tous les auteurs évitent de publier quoi que ce soit en janvier, en fait, tu as la place d'en parler. Donc potentiellement, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Les 2 mois que je propose d'éviter quand même, c'est septembre parce que c'est la rentrée littéraire et qu'il y a énormément de livres sur le marché. Et décembre parce que les gens en décembre, ils achètent les cadeaux et qu'une campagne de crowdfunding en décembre, ça veut dire que tu n'enverras pas les livres avant Noël. Donc, ça intéresse moins les gens. Mais c'est vraiment les 2 seuls moments où je conseille pas trop d'y aller. Le reste du temps, pour moi, c'est OK, à condition, évidemment, que tu aies préparé tout en amont, ta communication, etc., etc. Et au niveau de la durée, on conseille, en fait, de faire 1 mois et demi. Alors, attention, c'est très précis. C'est de la fin d'un mois, 1 mois entier jusqu'au début du mois M+2, en fait. Parce que comme ça, tu couvres deux périodes de traitement de salaire. Enfin, de salaire, quoi. Donc, tu as plus de chances de marcher parce que ceux qui n'auront pas vu ta campagne au début, même s'ils la voient à la fin, eh ben en fait, c'est au moment où ils vont toucher leur salaire. Donc, c'est OK. Ils auront de quoi te payer. Et ils n'hésiteront pas comme si c'était à un milieu de mois en se disant « Ouh là là, il faut que je termine le mois. Faut faire attention. » Voilà.
Ça, c'est de la vraie stratégie. J'espère que les gens prennent des notes parce que c'est des astuces qu'on ne trouve pas facilement. Alors, j'avais envie de reparler un petit peu des goodies et tout qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment est-ce que toi, tu choisis ce que tu vas offrir aux personnes qui participent à ta campagne? Parce qu'on voit toujours tu vois, des marque-pages, par exemple, ce genre de choses. Est-ce que toi, il y a quelque chose de spécifique que tu aimes bien offrir? Ou dans tous les cas, comment tu recherches et comment tu choisis ces produits-là?
Alors, ça dépend si on est sur du goodies qu'on inclut dans un pack ou si on est sur du goodies palier. Parce que quand on fait une campagne Ulule, on va faire différents packs. On va faire le pack broché, le pack e-book. Si on a un relié, on va faire un pack avec le relié dedans. Et on peut se permettre des petites folies en se disant, bah vas-y, si j'ai vraiment des ultra fans ou des gens qui adorent les gros goodies, bah je vais faire un pack avec le broché plus une pochette à livres, qui du coup va coûter plus cher que le pack broché tout court, etc., etc. Là, il faut prendre du beau goodies, hein, on va pas prendre du marque-page, on va prendre vraiment quelque chose qui coûte de l'argent. Donc moi, j'ai eu la pochette à livres que j'ai vendue dans un pack à 15 € supplémentaires. J'ai fait aucun bénéfice, hein, vraiment là-dessus. C'était juste pour les ultra fans. Il y en a qui mettent des tote bags, il y en a qui mettent des mugs, etc., etc. C'est intéressant pour les ultra fans, mais après mon expérience, je considère que c'est pas le plus important. Il y a des gens qui vont kiffer de ouf ça, mais ils se comptent sur les doigts de la main généralement, sauf si t'es quelqu'un avec une énorme communauté. Donc, est-ce que ça vaut le coût de dépenser de l'énergie là-dedans, je ne sais pas. J'ai tenté. Il y en a qui ont plus ou moins fonctionné. Le tote bag a relativement bien fonctionné. La pochette à livres a relativement bien fonctionné. Mais ça reste beaucoup d'énergie pour toi, pas forcément une marge de ouf, voire même pas de marge du tout. Après, les goodies paliers, ça c'est autre chose. Moi, j'adore les stickers. Donc, dès que je peux... je le mets en deuxième ou troisième palier parce que c'est ma vie, je suis une collectionneuse de stickers. Mais là encore, en fait, sur les goodies de palier, j'ai trop souvent vu des gens mettre des goodies un peu fous, genre le tote bag au bout du palier 2 ou 3. Et en fait, un tote bag, ça coûte 2 € pièce. Donc en fait, tu rognes ta marge de 2 €. Déjà que généralement, ta marge n'est pas très importante et que tu dois en garder pour en cas de pépin, quoi. Moi, je conseille pas ce genre de gros goodies, sauf si vraiment, 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 tu as une marge de 5 ou 6 balles et que tu peux te permettre 2 € ou moins. Par exemple, si tu as 300 ventes, bah, les 300 tote bags, ils vont pas être à 2 €, ils vont peut-être être à 1,50 €. Là, éventuellement, oui. Mais c'est vraiment sur des paliers très, 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 très loin, proche de ton 100%, en fait. Moi, je conseille de la papeterie. La papeterie, c'est vraiment ce qui revient le moins cher et ce qui fait quand même plaisir. Donc, on va être généralement sur de la carte postale, sur du stickers, sur... j'avais fait aussi, à une époque, sur mon marque-page, j'avais dit, bah à partir de ce palier-là, le marque-page aura du vernis sélectif, donc il sera plus joli. Il y a les illustrations personnages, etc. Tu peux même jouer sur le fait de, à partir de ce palier-là, je rajoute une nouvelle à la fin de mon livre. Ça, du coup, ça te coûte forcément moins cher. C'est que, entre guillemets, du travail créatif. Donc, il faut jouer sur ces trucs-là qui te coûteront pas trop cher, qui sont intéressants quand même pour les gens, qui font un peu collection, en fait. Voilà.
J'aimerais revenir un peu sur la raison d'être de ces campagnes de prévente. T'en as parlé un petit peu. C'est vrai que dans les maisons d'édition, les campagnes, elles servent à amortir les coûts d'impression, surtout voilà, le premier tirage d'un livre. Et on le sait, plus tu imprimes d'exemplaires, plus le coût unitaire sera faible. Mais encore, faut-il pouvoir les écouler, les stocker, tout ça. En auto-édition, les préventes servent aussi à financer ce tirage et à ajuster, j'imagine, vraiment l'impression que tu vas faire, notamment pour les salons.
Oui, voilà, c'est pour ça que le calcul du budget est important et souvent très complexe. C'est parce que, par exemple, tu ne vas pas pouvoir imprimer le même stock si tu arrives à 100% que si tu arrives à 400 ou 500%. Je vais prendre l'exemple de La Cité des Sangs Purs, ma toute première campagne Ulule. Donc, il y avait le tome 1 et le tome 2 et je voulais financer mon stock. Et en fait, au palier 100%, je pouvais imprimer un stock de 50 exemplaires de chacun. Et le palier 100%, comme c'était 1000 euros, bon, si j'en vendais 25 de chaque, ça me rémunérait à hauteur de, enfin, ça me faisait un chiffre d'affaires à 1000 euros, donc c'était bien. Et j'avais un stock un peu à côté, adjacent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai atteint un peu plus de 400%, et en fait, à un peu plus de 400%, j'avais en gros 100 exemplaires du tome 1 et peut-être 75 du tome 2 à envoyer. Et mon imprimeur, du coup, je voulais lui demander 175 exemplaires de chaque. Comme ça, j'avais une marge et je pouvais présenter mes livres en salon. Et il s'est passé que, en fait, les 175 exemplaires coûtaient à peu près la même chose que 300 exemplaires parce qu'on passait sur une autre machine et l'autre machine était moins chère. Mais c'était un plus gros tirage. Et du coup, en discutant avec mon imprimeur, je me suis dit, allez... ça coûte pas beaucoup plus cher, allons-y sur les 300 exemplaires. Et en fait, c'est comme ça que, au niveau du calcul du budget et au niveau du stock que tu vas pouvoir te permettre en supplément, c'est tout un calcul qui évolue. Mais effectivement, je fonctionne comme les maisons d'édition, en fait. J'utilise cette campagne de précommande pour financer mon premier tirage. Et ensuite, ce premier tirage, une fois qu'il est totalement écoulé. Généralement, ça me permet de rembourser mes frais de correction, d'illustration, etc., etc. Et c'est sur le deuxième tirage que je vais vraiment me faire ma vraie marge.
Et du coup, sur ton deuxième tirage, il n'y a plus de prévente, plus rien. C'est en fonction de ce que tu as gagné avec ton premier tirage que tu peux réinvestir dans l'impression de tes livres.
Voilà. C'est ce qui s'est passé sur mon intégrale de La Cité des Sangs Purs que j'ai prévendue sur mon site internet. En fait, le premier tirage, j'ai dû faire 70 préventes ou 80, quelque chose comme ça. J'ai quand même tiré mes 300 exemplaires. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier tirage m'a permis, une fois écoulé, donc il m'a fallu quand même un an pour l'écouler, il s'est auto-remboursé. Il a remboursé tous mes frais de mise en page, illustration et tout ça. Et il a permis de financer intégralement le deuxième tirage. Et du coup, ça y est, là, je suis sur le deuxième tirage. Là, je respire, je fais ma vraie marge à partir de maintenant. Et ça, c'est cool.
Les coûts d'impression ont déjà été absorbés par le premier tirage. Mais ça veut dire qu'il faut encore vendre beaucoup en papier, non ? Parce que les auteurs auto-édités vendent beaucoup en numérique. En tout cas, un peu plus en moyenne que les maisons d'édition. Donc, pour toi, par exemple, c'est quoi le ratio e-book-papier ? D'autant plus que tu fais beaucoup de salons, tu es très présente quand même en dédicace et tout ?
Alors, les intégrales, elles ne sont pas dispo sur Amazon. Du coup, c'est pour le coup, elles sont vraiment que pour les salons et la vente sur mon site internet. Sur Amazon, je vais avoir du brochet et de l'e-book, mais par exemple, du tome 1 et du tome 2. Au niveau du ratio, juste Amazon, je suis aux alentours de 60 à 70% c'est de l'e-book et le reste, c'est du papier. Il y a des mois avec plus et des mois avec moins. Mais on va être dans ces eaux-là. Mais je sais que c'est pas le cas de tous les auteurs et ça dépend beaucoup des genres aussi parce que le marché papier et le marché e-book n'est pas tout à fait le même. Donc, mais ça, c'est un autre sujet.
Faudrait un deuxième épisode sur ça, en fait.
J'avoue, c'est super intéressant, mais effectivement, c'est très long à expliquer.
Amazon, c'est ta plateforme de vente principale ou c'est ton site internet qui drive le plus de ventes ?
Ça dépend des mois. Alors, en fait, je vais prendre mes chiffres de l'année dernière parce que c'est mes premiers chiffres où j'avais vraiment Amazon, les salons et mon site internet. Et en fait, en termes de chiffre d'affaires, j'étais presque à égalité sur les trois. Du coup, 30% Amazon, 30% site internet et 30% salon, en sachant que sur mon site internet, il y avait eu la campagne de prévente de mes intégrales et que c'était surtout ça qui avait fait gonfler le chiffre d'affaires. En dehors de la campagne de prévente, c'est surtout soit des achats ponctuels, donc j'en ai entre 4 et 10 par mois, ça dépend des mois, et novembre, décembre, quand on fait les cadeaux, là, ça drive pas mal aussi.
D'accord. Et t'arrives à faire combien de rencontres de salons chaque année?
L'année dernière, j'en ai fait 15. Je les ai comptés. 15, c'est pas mal parce que c'est souvent des week-ends. Du coup, ça veut dire que sur tes 52 semaines, t'as 15 week-ends qui sont ailleurs. Cette année, pour le moment, j'en ai que 11. Alors, il faut savoir que je suis en train de vivre un gros changement de vie, hein, je déménage et tout ça. Du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment me poser sur la question salon. Mais c'est déjà beaucoup de salons. Et c'est fatigant. Ça fait, l'année dernière, plus d'un salon par mois quand même.
Ouais, c'est énorme. Puis les salons, il y en a partout. Tu dois parfois te déplacer à salon de chez toi, donc tu dois peut-être traverser la France, je sais pas.
Ben, en fait, moi, même si tu traverses pas la France, je compte, donc généralement, parce que les imaginales, par exemple, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc déjà là, t'as 4 jours ailleurs, mais je compte un jour de voyage le vendredi, voyage installation, parce que généralement, on installe la veille, et après, je compte la demi-journée du lundi, soit en voyage, soit en repos. Parce que il faut rentrer chez soi, comme tu dis, parfois quand on est à l'autre bout de la France, de toute façon c'est une journée complète de voyage. Mais souvent, enfin l'année dernière, souvent en fait on faisait le trajet retour le dimanche soir, donc on était bien bien crevés. Et le lundi matin, je le gardais pour la grasse mat parce que sinon c'est pas possible d'enchaîner quoi. Là typiquement, je suis rentrée des Imaginales dimanche. Lundi j'ai bossé un peu, mais je suis toujours exténuée quoi là.
C'est ça, quand on est indépendant. Si on travaille pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Retour au boulot.
Voilà, exactement.
Si on essaye de récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit, selon toi, c'est quoi l'avantage principal et l'inconvénient que peut constituer une campagne de prévente?
Alors l'avantage, c'est clairement si ça marche bien, tu peux avoir un stock au-delà de ce que tu envoies évidemment pendant les préventes. Et ce stock-là, comme il est censé être remboursé par ta campagne, après c'est que du bonus si tu le vends sur ton site internet, sur les salons, etc. Du coup, c'est une charge mentale en moins d'un point de vue financier, et ça, c'est pas négligeable. Le principal inconvénient, c'est que c'est beaucoup d'énergie. Je vais le répéter encore une fois, c'est énormément d'énergie parce que on communique pas de la même manière. C'est vraiment un événement, et comme tout événement, il faut les visuels, il faut communiquer, et c'est une communication qui est longue. Je vais peut-être donner un exemple. La Cité des Sangs Purs, quand j'ai fait cette première campagne de prévente, j'avais un travail à 35 heures. Le mois avant de lancer la prévente, j'ai passé tous mes soirs de 18h à 23h à faire des visuels, à savoir quoi dire, à préparer, en fait, tout simplement à préparer la campagne. Pendant la campagne, j'avais allé 2 heures, 1 heure à 2 heures tous les soirs à gérer la campagne. Et après, en fait, on avait également tous les soirs et tous les week-ends en fait dessus pendant 2 mois après la campagne. Et ça, il faut en être conscient. Je romantise pas. Je suis pas dans l'excès quand je dis que vraiment je passais 5 heures tous les soirs et tous mes week-ends aussi à travailler là-dessus. Si on veut une campagne Ulule ou une campagne de prévente qui marche, en fait, il faut mettre cette énergie-là.
Merci beaucoup pour ton honnêteté. C'est pas tout de montrer l'utilité de ces campagnes, il faut aussi dire que ça prend du temps, que c'est un investissement de tous les jours. C'est important de le faire, mais c'est tout aussi important de bien le préparer en amont, de voir comment ça s'organise et tout. Je pense qu'on a mieux compris avec ton intervention les tenants et les aboutissants d'une telle campagne, ce à quoi il faut faire attention, ce que ça peut apporter et tout. Je crois que c'est des sujets précis comme ça qui nous font avancer sur le chemin. Donc merci pour ton expertise là-dessus et puis tous les tips que tu as accepté de nous donner.
Ah de rien, avec plaisir. Si je peux aider des gens, moi je suis contente.
Il y a pour les personnes qui nous écoutent et que ça intéresse tous les liens vers ton site internet et évidemment ta masterclass sur le sujet du financement participatif, entre autres.
Super, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, que vous aurez plus d'informations entre les mains pour démarrer ou reprendre votre campagne de financement participatif. Si vous voulez vous lancer dans l'auto-édition mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, j'ai créé une formation qui s'appelle Réussir en auto-édition pour vous aider dans ce projet. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet, mon compte Instagram ou en barre d'infos. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit avis, à partager l'épisode. Si vous aimeriez qu'on aborde d'ailleurs un sujet en particulier, laissez-moi un petit message sur Insta ou dites-le moi en commentaire. Ciao !